Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
La République démocratique du Congo, où les deux poids lourds de l'opposition ont décidé de ne plus respecter l'accord conclu dimanche à Genève, un accord qui était pourtant historique, car pour la première fois dans l'histoire de la RDC, les principaux leaders de l'opposition étaient parvenus à s'entendre sur une candidature unique en vue de l'élection présidentielle du mois prochain, en désignant Martin Fayulu. Seulement voilà, cette unité n'aura duré finalement que 24 heures. Dès lundi soir, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont annoncé ne plus soutenir le candidat désigné. Raison invoquée, la pression de la base. Pas question pour les militants de l'UDPS et de l'UNC de voter pour un candidat autre que le leader de leur parti. Alors dites-nous si Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont pris la bonne décision. Cette stratégie ne risque-t-elle pas finalement de faire le jeu du pouvoir? Et François Mazet en parlait à l'instant dans son journal. L'avenir politique de Félix Tshisekedi Vital Kamerhe, la question mérite d'être posée, d'autant qu'en signant dimanche cet accord à Genève, tous les leaders qui étaient là, donc ils étaient sept, s'étaient engagés, par écrit, à mettre fin à leur carrière politique s'ils venaient à ne pas respecter leurs engagements. C'est exactement ce qu'ont fait Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe lundi, donc doivent-ils se retirer de la vie politique congolaise? Question simple, mais réponse peut-être compliquée. On en parle ensemble durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70. Des centaines de réactions sur la page Facebook de l'émission. Vous pouvez évidemment débattre entre vous à la radio, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Je lirai quelques commentaires tout au long du débat. Olivier, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Kinshasa, Olivier, et vous disiez au Standard que les jeux étaient faits après la volte-face des deux leaders de l'opposition.
Mais absolument. Ils viennent d'offrir le pouvoir sur un plateau à M. Chadari. Il est clair qu'à quelques jours du début de la campagne électorale, dans ces conditions-là, l'élection va en ordre dispersé, les opposants vont en ordre dispersé plutôt, ils ne sont pas suffisamment préparés pour affronter le candidat du pouvoir qui, lui, utilise les moyens d'État pour battre campagne. Mmh. Ils sont en retard. Si au moins ils étaient restés disciplinés, soudés derrière le candidat qu'ils s'étaient choisi, ils auraient eu des chances. Mais là, c'est fini pour eux.
Vous dites que donc, c'est fini pour eux, mais en même temps, vous avez entendu Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, ils avaient la pression de la base. Il y avait même des pressions venant de la direction politique de leur propre parti qui leur disait « il faut absolument que vous retiriez cette signature ».
Mais absolument, c'est des directions politiques de partis qui sont instrumentalisées par le pouvoir en place, corrompues, pour manipuler la base.
Attendez, Olivier, vous êtes dans la théorie du complot, là. Vous êtes en train de nous dire que c'est le pouvoir qui manipule, qui influence la direction politique de l'UDPS et de l'UNC, donc les partis respectifs de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, pour forcer les leaders à ne plus soutenir un candidat unique?
Mais nous connaissons tous les méthodes du pouvoir Kabila, qui a l'habitude de manipuler comme ça les structures des partis d'opposition à coup d'argent. C'est comme ça que le système Kabila fonctionne. Mmh. Donc ce n'est pas étonnant qu'un secrétaire général du parti menace son président, lui intimant, lui donnant un ultimatum de 48 heures. Mmh. C'est des choses qui sont peu courantes. Et c'est lui qui a convoqué tous ces militants à venir au siège du parti.
Oui. À l'UDPS, ils étaient plusieurs centaines, hein, effectivement, devant l'UDPS, plusieurs centaines de partisans lundi à manifester leur colère. Et effectivement, il y a eu cette réaction du secrétaire général de l'UDPS qui a fixé en quelque sorte un ultimatum au président du parti, à Félix Tshisekedi, en lui disant « tu n'as que 48 heures devant toi et il faut que tu retires ta signature au bout de 48 heures ». Voilà en substance ce qu'a dit le secrétaire général de l'UDPS, et scénario identique du côté de l'UNC de Vital Kamerhe. Merci Olivier d'avoir lancé le débat. Je ne sais pas si David voit lui aussi la main du pouvoir derrière la décision de ces deux leaders de l'opposition. Bonjour David.
Oui, bonjour Juan et bonjour aux auditeurs de la Radio du Monde.
Vous êtes à Bukavu, vous êtes déçu par l'opposition, mais comme Olivier à l'instant, vous pensez que le pouvoir a essayé à sa façon de faire pression sur les deux candidats ?
Bon, d'emblée, je ne pense pas. D'emblée, personnellement, je ne pense pas. Ma déception vient du fait que, comment de si haut cadre de l'opposition de la classe politique congolaise, quitte Kinshasa pour aller à Genève, signe un document et le lendemain nier ces documents. Vous savez, Juan, dans une signature, il y a trois éléments. Il y a l'authenticité, il y a l'engagement et il y a la responsabilité. C'est comme si vous acquittez un chèque. Quand il y a l'authenticité, ça signifie que c'est vous. L'engagement, donc vous vous engagez à payer cette somme. Et la responsabilité, c'est d'assumer que votre compte soit débité. Et comment, je me dis, c'est inconcevable. Zita Kamer et Félix Tshisekedi, après avoir apposé leur signature, à cause d'une petite pression, on se demande pourquoi ils sont leaders. Voilà, et même si les gens qui ont crié, M. Kabila doit partir, M. Kabila doit partir, et qui va remplacer Kabila ? Ce sont des gens pareils. Voilà des prochains présidents qui iront signer des accords sur le climat à Paris, et parce qu'on aurait interdit à quelques paysans qui auraient marché d'abattre des arbres. Le lendemain, ils diront, voilà, je me retire.
Vous êtes plusieurs à nous dire exactement la même chose sur la page Facebook de l'émission. Que vaut finalement la signature de ces deux hommes si aujourd'hui, effectivement, ils s'engagent par écrit sur un document et que demain, malgré la signature, ils déchirent le document comme si rien n'était. Et c'est un commentaire qui revient souvent, en tout cas Martin Fayoulou, qui est quand même le principal concerné, puisque c'était lui qui avait été désigné candidat unique de l'opposition, a dit sur notre antenne, pas plus tard qu'hier matin, je n'ai jamais vu un homme sérieux qui appose sa signature en âme et conscience et qui la retire le lendemain matin. Donc vous êtes sur la même lignée, David, que Martin Fayoulou. Jafet, bonjour.
Juan.
Vous êtes à Kinshasa, merci de nous appeler. Comment réagissez-vous ? Êtes-vous surpris ? Quelles conséquences ?
Écoutez, Juan, moi je suis très content parce que moi je me dis que quand tu as ton meilleur joueur sur le banc, alors que deux autres de tes meilleurs joueurs ont été disqualifiés, tu dois le mettre sur le terrain. Et ce n'est pas ce qui a été fait à Genève. Alors, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont, pour ma part, montré une qualité d'homme d'État en se soumettant à la volonté de ceux-là qui ont fait d'eux leur leader. C'est un comportement qu'on trouve rarement en Afrique. Donc c'est une leçon pour toute la nation congolaise. Un président d'un parti qui se soumet à sa base, c'est un chef d'État qui se soumettra au peuple. Cela est une garantie qui ne trahira jamais la nation.
Alors il y a Michel qui dit tout à fait le contraire sur Facebook, il est à Lubumbashi. Il nous dit « Ce revirement démontre que Félix Tshisekedi n'a aucune emprise sur son parti. » Eric nous dit « Félix Tshisekedi démontre son manque de charisme, son manque de personnalité. C'est lui qui doit convaincre sa base et non l'inverse. »
Écoutez, en 2006, je veux rappeler que l'opposition n'était pas unie, ni en 2011. Les résultats, nous le savons, ne sont pas reflétés la vérité des urnes. Donc, si ils pensent qu'aujourd'hui, pour gagner les élections, il faut être unis, ils se trompent. Il faut plutôt aller aux élections et se préparer en conséquence, avoir beaucoup de témoins dans les centres de vote.
Donc l'unité ne fait pas la force à vous entendre. Autant aller en ordre dispersé, autant provoquer un émiettement des voix de l'opposition face aux candidats sortants. C'est un peu ce que vous privilégiez. On va donner la parole à d'autres auditeurs. Vous êtes très nombreux. Je voudrais que le plus grand nombre d'auditeurs puisse évidemment s'exprimer tout au long des minutes qu'il nous reste. Serge, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes à Kinshasa. Alors, vous êtes soulagé ou au contraire, comme les deux premiers auditeurs, déçu par l'attitude de ces deux opposants ?
Moi, je pense que je suis soulagé suite au comportement de nos deux leaders qui sont retrouvés de la signature. Le problème, c'est qu'il y a eu ici ou deux le départ. Il y a Félix et l'UDPS qui sont prêts à aller aux élections avec machine ou sans machine. Et il y a les camps du candidat commun qui est catégorique élection sans machine. Alors nous le savons tous que la CENI n'est pas prêt à retirer sa machine pour le mode de scrutin. Alors comment élire un candidat commun qui va boycotter les élections pour donner la main libre au pouvoir de Kabila de continuer au lieu de soutenir un candidat qui est prêt à aller aux élections pour essayer de contrer la tricherie pendant les élections? Moi, je pense que La décision de Félix est responsable. Il doit revenir à la décision dès sa base d'aller aux élections avec ou sans machine. Donc je ne vois pas le mal dans ça.
Ouais, vous voyez pas le mal, mais en même temps, Serge, mettez-vous à la place de ceux qui observent l'attitude de l'opposition, qui voient que le dimanche, elle est autour d'une table, elle s'installe, elle vote, elle signe un document, elle signe même des lettres d'engagement que j'ai sous les yeux, et le lendemain, comme si de rien n'était, on jette à la poubelle les lettres et les documents et le vote, comme si de rien n'était. Est-ce que c'est sérieux?
Si je comprends bien la lettre stipule que on signe la mort politique une fois qu'on se désengage de ces accords, mais moi je pense que c'est faux. C'est la base qui détermine la vie politique de son leader.
Donc il aurait
ça n'a rien à voir avec...
il aurait fallu donc demander d'abord à la base avant d'entamer des discussions, d'aller à Bruxelles, d'aller à Pretoria et de finir à Genève.
Bien sûr,
donc il y a eu erreur du chef du parti qui n'a pas demandé l'avis à la base avant d'engager des discussions avec le reste de l'opposition. Serge, merci d'avoir contribué à la réflexion. Bonne journée à Kinshasa. Yannick nous dit sur Facebook, s'ils ne sont pas capables de respecter leur signature, ils ne sont pas dignes de diriger un pays comme la République démocratique du Congo. Arnold, avec un brin d'humour, nous dit à Genève, il y a eu une élection libre, démocratique, transparente et sans machine à voter. Mais curieusement, les résultats sont contestés, à croire que la contestation est la nature des opposants congolais. 33 9 693 693 70. Bonjour Albert.
Bonjour.
Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi ont-ils pris la bonne décision?
Ils n'ont pas pris du tout la bonne décision. Ils nous déçoivent extrêmement. Parce que quand on signe sur honneur, c'est un acte d'engagement sur honneur et on doit respecter son honneur. On ne peut pas d'abord signer et en plus dire je me soumets à la base. Sinon, l'autre camp aussi pouvait dire aussi on se soumet à la base. Hein? On a vu que quand le président de la République a désigné Emmanuel Ramazani Shadary, beaucoup étaient contre, ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Mais malgré ça, ils se sont alignés, ils n'ont pas retiré leur signature.
Oui, ce que vous dites, Albert,
ils ont signé les accords avant.
La majorité, elle, démontre qu'elle peut rester unie, même si y a des désaccords concernant le choix du président Kabila, à savoir donc le choix de Monsieur Shadary pour représenter la majorité présidentielle. Mais au moins, contrairement à l'opposition, la majorité reste unie jusqu'au bout.
Oui. Et au moins, ils montrent qu'ils sont unis. Mais ce que nous montre l'opposition, là, c'est vraiment, ça montre qu'il n'y a que l'intérêt personnel qui comptait sur les chefs de ces deux leaders de l'opposition. Ils ont signé tout en sachant que c'est eux qui vont gagner.
Oui.
Et quand ils ont vu qu'ils n'ont pas été désignés, et 24 heures après, ils se retournent.
Donc ça veut dire quoi, Albert? Vous dites ils ont signé, mais en sachant qu'aussi, de toutes les façons, ils ne sortaient pas vainqueurs de ce scrutin interne à l'opposition, ils déchireraient le document. Donc quand ils invoquent la base, quand ils disent ce sont les militants qui nous font pression, finalement, ce n'est qu'un prétexte, alors?
C'est un prétexte, c'est un argument fallacieux. On ne peut pas d'abord signer les documents et après dire je me retire parce que ma base me l'impose. À ce moment-là, ils auraient une étude qui est signée sous réserve. À ce moment-là, ils disent je signe sous réserve, après avoir consulté ma base, je vais considérer ma signature.
Oui. Hein? Oui.
Là, ça devient très simple.
Alors, vous êtes en colère, Albert. Sur Facebook, Aboubacar dénonce l'individualisme effréné de la classe politique congolaise et félicite par avance Monsieur Shadary pour sa victoire certaine à l'élection présidentielle de décembre prochain. Voilà donc un auditeur convaincu que le choix de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ouvre finalement un boulevard aux candidats de la majorité présidentielle. Bonjour Martin.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Paris. Que pensez-vous de ce coup de théâtre?
Je pense que la décision de Kamerhe et Félix Tshisekedi, c'est une décision mûre et réfléchie. Parce que toute opposition consciente et crédible est tenue de plébisciter un candidat dont les sondages sont favorables. et que ces candidats soient capables de rassembler tout le monde autour d'un programme. Or, dans les cas précis, l'intérêt supérieur de faire partir l'actuel régime n'a pas été mis en exergue. Ceci se justifie par les choix du candidat commun. Et même l'organisateur qui vient de publier les lettres d'engagement envenime encore les choses.
Ah bah, envenime, attendez, la fondation Kofi Annan remonte ses manches, fait le nécessaire pour rassembler l'opposition politique à Genève. Pendant 3 jours, il y a des concertations, des tractations, tout ça géré par la fondation Kofi Annan. Un vote est organisé, un accord est conclu, et 24 heures plus tard, deux des participants déchirent leur engagement. Il y a de quoi comprendre la fondation Kofi Annan de dire, écoutez, vous n'avez pas respecté votre engagement, eh bien nous allons publier l'accord, nous allons le rendre public, nous allons publier pour que tout le monde voit les engagements que vous avez signés noir sur blanc. C'est la moindre des choses. Au moins, il y a transparence.
Non, Juan, je pense que si l'organisateur avait publié pendant le point de presse de Martin Fayoulou les lettres d'engagement, cela s'expliquerait aujourd'hui. Oui. Pourquoi avoir attendu que les autres se désistent pour publier les lettres d'engagement?
Vous voulez que je vous le dise? Vous voulez que je vous le dise? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'écoute RFI le matin. Et ce matin, Léa Lisa Vesterhoff nous expliquait justement que si l'un des signataires ne respectait pas les engagements, eh bien à ce moment-là, tout serait rendu public. Et il se trouve que deux d'entre eux n'ont pas respecté les engagements, donc on rend public ces informations.
Je suis tout à fait d'accord, Juan. Mais c'est que les gens oublient, c'est que les leaders de l'opposition n'ont jamais été comptables des choix des électeurs. C'est pourquoi les électeurs ont fait comprendre à Félix et Vital qu'ils avaient pris une mauvaise décision de signer ces accords sans tenir compte des objectifs et du contexte politique actuel dans le pays.
Donc il aurait fallu consulter la base avant d'entamer la moindre négociation avec le reste de l'opposition.
Je pense bien que oui, bon. Parce que le mode de scrutin et les choix ont sérieusement amenuisé les chances de l'opposition d'accéder au pouvoir.
C'est facile après de dire que le mode de scrutin n'était pas correct, n'était pas bon. Ils ont accepté ce mode de scrutin. Après, quand on ne sort pas vainqueur, on peut contester, mais c'est trop tard. La démocratie, c'est ça. On accepte les règles, et bien on va jusqu'au bout, comme disaient plusieurs auditeurs hier à cette heure-ci sur l'antenne de RFI. Merci Martin, bonne journée en région parisienne. On termine avec vous, Donatien, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Oui, à mon humble avis, la décision prise par les deux leaders prouve qu'ils ont été flexibles. C'est l'une des bonnes qualités des dirigeants. Un dirigeant qui n'est pas flexible resterait dans une position d'erreur, même si il trouve que je vais me mettre dans un puits. Et en plus, j'entends parler de ce qu'on appelle engagement. Ok, mais cet engagement, selon lequel on mettrait fin à la carrière politique, mais qui va mettre fin à la carrière politique si ce ne sont pas le combattant, si ce n'est pas la base? Parce que un leader sans base, c'est un leader qui ne peut pas conduire quelque chose. Donc, l'erreur de départ, c'est l'erreur d'avoir mis en place un système qui donnait des privilèges à n'importe qui, même celui qui n'a pas une base sérieuse.
Dès le départ, en sachant que on aurait autour de la table Martin Fayoulou, si personne ne souhaitait qu'il soit élu, autant lui dire, cher ami, bon, avec tout le respect qu'on vous doit, présentez-vous si vous voulez, mais vous ne ferez pas partie de notre coalition puisque vous n'avez pas suffisamment de poids politique. Autant lui avoir dit clairement les choses dès le début.
Oui, moi je crois que le système, s'il avait été les consensus, ça serait été autrement. Mais le fait d'avoir accepté, là c'est aussi le rôle du leader de l'UDPS, le fait d'avoir accepté de prendre part à une élection qui au départ on n'avait pas la maîtrise du tenant et des aboutissants.
On est obligé de conclure. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous dites oui, ils ont fait le bon choix, mais ils ont quand même, en parlant de Tshisekedi et de Kamere, commis quelques erreurs dès le départ. Merci à tous, le débat est loin d'être clos. On aura l'occasion d'y revenir vendredi dans la Libre Antenne, puisque le vendredi, vous commentez l'actualité de votre choix. Demain, nous parlerons de cette annonce du président sénégalais. Hier, chez nos confrères de France 24, Macky Sall a évoqué la possibilité, en cas de réélection, d'amnistier Karim Ouad et Khalifa Sall. Vos réactions, évidemment, dès demain matin sur l'antenne de Radio France Internationale. Dans 10 minutes,